au réseau Cogeco. Mario Langlois rencontre.
Bien le bonjour, mesdames, messieurs, et bienvenue à Mario Langlois rencontre. C'est un grand plaisir pour moi de recevoir un homme qui a été un idole d'enfance. Je l'ai dit à toutes les fois que j'ai le privilège de le recevoir. Et je trouve donc important, parce que le temps file à toute vitesse, et considérant qu'il y en a plusieurs qui ne l'ont jamais vu patiner, qui circulent peut-être sur un boulevard qui porte son nom, qui vont dans un aréna qui porte son nom, qui patinent sur un anneau de glace qui porte son nom, ou encore, qu'est-ce que j'oublie?
Une école
secondaire qui porte son nom. Puis je suis convaincu qu'il y en a plusieurs qui ne l'ont jamais vu, qui savent peut-être un peu c'est qui, mais ils savent pas tout à fait. Je me souviens, notre devise, eh bien, il faut l'entretenir, ce souvenir, de grands souvenirs que nous a procuré Gaétan Boucher de par sa carrière de patineur de vitesse longue piste, et on l'accueille en studio aujourd'hui. Bonjour Gaétan.
Bonjour Mario.
Bienvenue à cette entrevue. Merci de l'avoir accepté. Toi qui reviens tout juste d'une autre Olympiade, qu'est-ce que ça représente pour toi que de rester près de l'olympisme de par ton rôle d'analyste, là, toi qui reviens de Pyeongchang?
Disons que ça me permet, comme tu dis, de garder un contact et puis de voir l'évolution qu'il y a dans le sport, parce que ça... Moi, j'aimerais ça être à leur place, les patineurs actuels, parce que le but du patinage de vitesse, c'est d'aller le plus vite possible. Et ils vont de plus en plus vite, comme dans n'importe quel sport. Mais là, à cause de la glace, la meilleure qualité de glace, meilleures installations, meilleurs patins, différents entraînements, ils font des temps que nous, on rêvait de s'approcher de ces temps-là. Alors, le fait de le voir à tous les 4 ans, ben, ça me permet justement de rester en contact avec certains entraîneurs qui sont les patineurs contre lesquels je patinais. Certains entraîneurs, certains dirigeants d'équipe, etc. Alors, c'est plaisant de revoir ce monde-là. Il y en a de moins en moins, mais quand même, c'est le fun de voir ça tous les 4 ans.
En termes de chrono, là, autour, par exemple, pour un 500, un 1000 ou un 1500 mètres, là, peux-tu nous donner une idée du décalage ou de la progression des patineurs, là, rendu en 2018 par rapport à 80-84?
Ouais, disons qu'au 1000 mètres, qui était ma distance préférée, il y a 6 secondes entre mon meilleur temps, qui était le record mondial dans le temps, et le record mondial actuel. Alors, 6 secondes sur 2 tours et demi, c'est presque 3 secondes par tour. Alors, c'est très rapide. C'est vraiment...
Je comprends donc. Hein? T'es pas revenu tout de suite au pays, je pense, après les Jeux de Corée du Sud. T'as dévié par... Je pense que t'es allé visiter certains de tes enfants en Europe, et ça t'a permis d'aller assister à une compétition de patinage de vitesse en dehors des Olympiques.
Oui, je suis revenu. En fait, je suis revenu 3 jours, mais pour travailler un peu.
Mais t'es reparti.
Effectivement, je suis reparti en Europe. J'ai un fils qui habite en Allemagne et j'ai un fils qui habite en Hollande, à Amsterdam. Et donc, on en profite toujours quand on va en Europe pour aller voir mes beaux-parents également, qui, ma femme vient de l'Allemagne, alors qu'ils sont à Insel, en Bavière. Et quand on a préparé notre voyage, par hasard, j'ai su que le championnat mondial, toute distance, avait lieu à Amsterdam. Alors, moi, j'avais demandé à mon fils de vérifier. J'ai dit, c'est où? Vérifie, c'est quel anneau? Parce que la Hollande a pratiquement une dizaine d'anneaux couverts, eux autres. C'est leur sport. C'est
vraiment 10? Un sport.
Oui, oui, il y en a. Des
per capita, ça n'a rien à voir avec nous autres, là?
Non, c'est vraiment un sport qui est important pour eux. Mais ce championnat mondial-là fêtait le 125e anniversaire des championnats du monde. Alors, le premier championnat mondial en patinage de vitesse a eu lieu en 1893. Alors, ça faisait 125 ans. Et pour fêter ça... ils avaient décidé de faire le championnat mondial dans le stade olympique des Jeux d'été de 1928. Et ils ont mis une glace temporaire, une glace artificielle temporaire, et ça leur permettait d'avoir 25 000 spectateurs. Alors, c'était plein. J'ai donc contacté les organisateurs, puis on a assisté. J'étais avec ma femme et puis
avais-tu déjà
mon fils
patiné
et sa femme.
Sur cet anneau de glace, toi?
Non.
Non, t'avais jamais patiné
non.
là?
Non, mais l'anneau n'existait pas comme tel.
Okay,
alors,
okay.
C'est un anneau temporaire.
Ah, vraiment?
J'avais
ouais,
patiné à Amsterdam sur un autre anneau.
Oui.
Mais c'est drôle parce que mon fils a patiné sur cet anneau-là parce que son patron, alors, il travaille en Hollande, lui, et puis quand ils savent que c'est mon fils, alors c'est un Hollandais, et puis il a dit, ben, faut que tu viennes patiner avec des longues lames. Alors, mon fils a patiné sur l'anneau du championnat mondial.
T'as 4 enfants, Karine et toi, vous avez 4 enfants, 3 garçons, 1 fille. Ils ont tous goûté au patinage de vitesse.
Oui, tout.
Ouais.
Oui.
Est-ce que t'aurais souhaité qu'ils poursuivent? Le hockey l'a emporté, je pense. Hein?
Le hockey l'a emporté, surtout mes 3 gars. Ils jouaient dans le 2A, dans ce temps-là, c'était du 2A. Alors, Atome 2A, puis oui, 2A, etc. Et puis...
T'as des bons joueurs.
C'était des bons travaillants, des bons joueurs, oui, dans chaque équipe. Et puis, on fait... Donc, on avait beaucoup d'heures de glace avec le patinage de vitesse. On avait essayé de les intéresser au patinage de vitesse, puis ils étaient intéressés. Jean-François, le plus vieux, a fait les Jeux du Québec en patinage de vitesse. Mais ils aimaient mieux le hockey. Puis à un moment donné, c'est nous, les parents, qui a dit, regarde, on n'est plus capable de se diviser, là, parce que patinage de vitesse une journée, hockey une journée, puis bon, les trois là ensemble en même temps. Alors, on leur a demandé de choisir un sport, et puis ils ont choisi le patinage de vitesse.
Bien le bonjour, mais...
C'est bien correct. Oui, je pense que ça aurait été le fun d'en voir un. Moi, je pense que celui qui avait le plus de talent, ben, à cause de son gabarit, puis qui... peut-être un peu plus fort physiquement, c'est Jean-François.
Ton plus vieux.
Qui
joue en Ligue élite en Allemagne, d'ailleurs. Oui. Moi, je ne sais pas s'il est en fin de carrière, mais il jouait encore là, la saison dernière, la saison en cours.
Oui, oui. Il vient tout juste...
avec Cologne.
Il joue avec Cologne. Cologne vient de se faire éliminer, alors ils se font éliminer en quart de finale. Et c'est sa dernière année de contrat, alors c'est peut-être son dernier match. Il est rendu à 32 ans. Alors, on sait pas. On attend de voir des nouvelles, voir ce qui va arriver.
J'étais curieux pendant les Jeux olympiques. T'étais là. Je sais pas si ta femme était restée ici au Québec, mais preniez-vous pour les Allemands en finale du hockey masculin?
C'est sûr.
Ben, j'imagine, hein?
Oui. Oui, ma femme, c'est sûr. Ma femme, bon, elle, pour elle, c'est un naturel, mais à chaque fois qu'on a des événements, la Coupe du monde de soccer, par exemple.
Embarquez-vous avec?
On embarque. On a un drapeau, des drapeaux d'Allemagne sur notre maison. On décore pour l'Allemagne. Alors, pour le hockey, c'est un peu la même chose. Et puis, moi, je les supporte, c'est sûr.
Ben, c'est vraiment intéressant. Puis, c'est sûr que c'est ça que je devinais, là, à distance.
Ben, il y avait des joueurs dans cette équipe-là.
Qui ont joué avec Jean-François.
Ben, qui jouent encore.
Avec lui.
Oui, qui jouent encore avec lui. Alors, il y en avait de l'équipe canadienne aussi, parce que Peters, c'était leur deuxième gardien en Allemagne.
À toutes les fois que tu assistes à une Olympiade comme analyste, comme là tu reviens de Pyeongchang, reviens-tu avec des idées, ça te brasse-tu, ça fait-tu réfléchir, ça te ramène-tu dans le passé ou ça te fait penser au sport tel qu'il est aujourd'hui? Est-ce que ça te brasse là, par rapport à ce que tu observes du mouvement olympique global ou seulement dans le patinage de vitesse? Parce qu'être sur les lieux, c'est quelque chose quand même, hein?
Oui, oui. Ben, disons, moi, je trouve que les Jeux... On dirait que pas l'intérêt est toujours là, mais il y a de quoi qui se passe qui... ben, je pense que les coûts ont pas aidé. Hein. C'est très, très cher de tenir des Jeux olympiques maintenant. Et puis, on dirait que les Jeux vont tranquillement disparaître parce qu'il y a des Coupes du monde dans tous les sports. Un championnat mondial comme celui qu'on a eu à Amsterdam, ça vaut les Jeux olympiques facilement en termes d'attrait puis en termes d'intérêt, je pense, pour les gens. Alors, moi, je me dis, il me semble que les Jeux olympiques, c'est plus ce que c'était avant. Et maintenant, avec tous les réseaux sociaux, on entend parler des résultats de tous les athlètes, on entend parler de leur pratique. Il y a toujours quelque chose qui fait que c'est pas nouveau, c'est pas un événement qui est unique. Alors, on a les Coupes du monde, on a les championnats du monde, on suit les athlètes à travers toutes les semaines. Ce qui fait que les Jeux olympiques, moi, je pense, perdent un petit peu de leur valeur.
T'accordes plus de valeur, toi, justement, comme ancien athlète puis grand olympien, à la saison qu'à l'événement qui, évidemment, est propulsé médiatiquement pour rayonner à travers le monde, parce que c'est un petit peu ça, la fenêtre olympique. Non?
Mais pas en termes de résultats, parce que moi, j'ai toujours dit... les Jeux olympiques, t'as une chance. C'est une course, dans notre cas. Nous, c'était une course. Fallait être prêt à cette journée-là. Alors, c'est vraiment... Faut que ce soit le meilleur qui ressort, là, qui gagne, qui soit bien préparé. Tandis qu'un championnat du monde, c'est le total de 4 courses. On peut faire une petite erreur. Faut pas en faire 2, mais on peut en faire 1. Puis se retrouver au classement général, quand même, bien positionné. Alors, de ce côté-là, les Jeux olympiques ont vraiment leur importance. Mais c'est tout ce qu'il y a autour. Je pense que ça c'est trop gros d'un certain côté. C'est gros, par exemple, au niveau de l'argent, au niveau de des commandites, tout ce qui a rapport au niveau du traitement VIP. Des fois, ça n'a pas d'allure. C'est disproportionné par rapport à ce que les athlètes ont.
L'absence des hockeyeurs professionnels, toi, à ces derniers Jeux, là, ça t'a pas fait trop de peine?
Non. Non. Je trouve que le calibre était plus égal. Sauf que bon, on sait bien, nous on n'a pas les joueurs, la Ligue nationale sont pas là, les joueurs soviétiques c'était différent, les Russes c'était différent. Peut-être que c'est pas aussi égal qu'on le veut, mais pour les autres, je pense que c'est un peu mieux. Puis ça permet de, on parlera pas juste de hockey durant les Jeux olympiques, on va couvrir. Malgré que je dis ça, mais au Canada on est un petit peu différent parce que on a du succès dans beaucoup de sports maintenant. Alors, on traite bien nos sports. On parle mieux du patinage à vitesse beaucoup mieux qu'avant. On parle du patinage à vitesse. On parle d'Éric Gay en ski alpin. On parle de Michael Kingsbury. On parle de tous les athlètes québécois qui performent bien. Alors,
leur succès au pluriel ont attiré l'attention vers eux davantage.
Ouais.
Et là, il y a une couverture qui est pas mal plus logique en rapport avec le degré de succès remporté par ces athlètes. Gaétan Boucher, l'un des plus grands médaillés de l'histoire olympique canadienne, est avec nous en studio et nous revenons après cette courte pause.
Au réseau Cogeco, vous écoutez Mario Langlois rencontre.
Nous voilà de retour avec notre invité aujourd'hui. C'est un grand plaisir pour moi, un honneur en fait de le recevoir. Gaétan Boucher, deux fois médaillé d'or aux Jeux olympiques de 1984 à Sarajevo. Tu avais également remporté le bronze lors de cette Olympiade. Tu avais aussi décroché l'argent en 1980. Mais tu avais participé à tes premiers Jeux olympiques en 1976 à Innsbruck où tu avais quand même réussi un résultat fort intéressant. Tu étais classé 6e à l'une des épreuves en 76. Des Jeux auxquels tu ne croyais pas même participer à ce moment-là. Là, ça allait plus vite que tu voulais dans un sens, ta progression.
En 1975, quand j'ai fait l'équipe nationale, mon père était très, très fier, c'est sûr. Et puis, il faisait comme, OK, on va faire une progression, voir où on pense que tu pourrais aller, sans connaître vraiment l'entraînement. Et on visait les Jeux de 1980. Et il disait, ah, 1976, t'es trop jeune, tu pourras pas aller aux Jeux. 1980, tu vas pas aller à tes Jeux. Puis 1984, tu vas avoir une expérience, tu vas pouvoir gagner. C'est un peu ce qu'il pensait, mais je suis allé en 1976.
Avec le recul, quand tu dis ça, il y avait une papée vision.
Oui. Mais je suis allé en 76 et puis j'ai eu une progression qui a été quand même très, très rapide. Parce que quand je suis allé en 75 au championnat mondial, c'est là que ça... J'ai toujours été quelqu'un qui était très, très sérieux à l'entraînement. Mais j'ai vu en 75 que les autres n'étaient pas différents de ce que moi j'étais. Alors, je les regardais patiner, puis je disais OK. Puis mon père me disait, il y a deux bras, deux jambes, puis il s'entraîne, puis tu t'entraînes, tu as deux bras, deux jambes. Fait que tu vois pas de raison que tu sois pas capable de le battre. C'est la façon qu'il me parlait. Et... je l'ai réalisé en 75 au championnat mondial. J'ai pas eu de bons résultats en 75, mais j'étais très jeune. Mais j'ai vu que effectivement, parce que si je m'entraîne un peu plus dur, puis que je travaille sur ma façon de patiner, et en 76, je suis venu à 0,3 seconde d'un record mondial sur 1000 mètres. Sur une glace très rapide, mais je savais que je progressais beaucoup. Donc, j'ai vu que l'entraînement que j'avais fait, puis la croyance que j'avais que je pouvais être bon dans ce sport-là, mais ça fonctionnait si je mettais les efforts. Et puis,
1976, t'es né en 1958, Gaétan. Là, t'as quel âge à ta première participation aux Jeux olympiques, pour nous situer dans le temps? Là?
J'ai 17 ans.
T'as 17 ans à ce moment-là?
Oui. Ouais. Je suis né au mois de mai, donc j'ai 17 ans et 8 ou 9 mois. Ouais.
As-tu vécu un peu ta jeunesse où c'était sport? Ouais, non. Tu t'es amusé parallèle en masse? Ouais.
Ah, oui. Moi, j'ai eu le plus de plaisir, puis c'est avec les gars de l'équipe canadienne, les Québécois, parce qu'à un moment donné, l'équipe était pratiquement 100% québécoise, et je me tiens encore avec ces gars-là. Bon, il y en a plusieurs à Québec, mais...
C'est que ces gars-là, puisqu'on en parle?
C'est Benoît Lamarche, Jean Pichette, Grégoire Gélonec, qui était lui plus sur le tard, Daniel Turcotte, qui est un gars avec qui je m'entraînais sur l'île des Sœurs, parce que lui restait à Saint-Lambert, moi je restais à Saint-Hubert, alors on se rejoignait au milieu. C'est des gars, Richard La Liberté, c'est des gars qui ont patiné avec moi, soit à Sarajevo, soit à Calgary, soit aux deux, et puis on a eu tellement de plaisir. Alors on n'a pas manqué notre jeunesse, parce qu'on sortait, puis on avait toujours... Moi j'avais grandi avec Sylvia Burka dans l'équipe, qui elle a été une grande championne mondiale, elle a gagné championnat mondial 3 ou 4 fois. Et Sylvia me disait, si tu restes l'équivalent de 1$, si t'as une pièce dans tes poches, qu'est-ce que tu fais? T'achètes une bière. C'est ce qu'elle me disait. Alors, oui, on sortait. Puis nous, avec les Québécois, parce qu'on passait 3 mois en Allemagne à s'entraîner, il n'y avait pas trop de compétition. Et notre entraîneur disait, vous êtes mieux de prendre une bière tous les jours que d'en prendre 7 le dernier jour. Alors ça, c'était sa mentalité. Ça ne me dérange pas si vous sortez prendre une bière. Puis c'est ce qu'on faisait. On soupait, on jasait un peu, on jouait aux cartes. Puis vers 8 heures, on disait, ah, les gars, on va-tu prendre une bière? On sortait, on prenait une bière. Puis à 10 heures, on rentrait, puis on avait pris notre bière. Mais c'est sûr que quand on n'avait rien le lendemain, si on n'avait pas d'entraînement, qu'on avait une journée de congé, ce qui était rare, ben là, ça pouvait être plus qu'une bière, c'est sûr.
As-tu appris l'allemand, toi, Gaétan?
Je vais me débrouiller, mais je suis très limité dans mes sujets de conversation. Ils ne sont pas très profonds, mais je vais comprendre assez bien. Alors, je peux suivre une conversation, mais de là à répliquer, ça va être difficile.
Gaétan Boucher, notre invité, restez avec nous. Nous vous revenons après cette pause publicitaire.
Mario Langlois rencontre au réseau Cogeco.
Nous sommes de retour avec notre invité aujourd'hui, Gaétan Boucher, double médaillé d'or, médaillé de bronze, médaillé d'argent lors des Jeux olympiques de Lake Placid et également de Sarajevo 80 et 84. C'est drôle, tout à l'heure, tu évoquais le souvenir de ton père et de sa planification d'une certaine façon, puis je trouve qu'il y avait un regard assez lucide quand on regarde en rétrospective la récolte que tu as eue de médailles par la suite. Mais c'est drôle, j'ai tellement un beau souvenir de ton père, Cyrénus, son prénom, puis je me souviens... Je me souviens de son sourire, je me souviens de son enthousiasme. C'était comme, lui, il parlait du patinage de vitesse comme d'un septième match de la Coupe Stanley. Qu'est-ce qu'il a représenté dans ta vie, puis dans ta vie sportive, ton père, Gaétan?
Ah, ben, mon père était mon supporter numéro un, là, lui, dès le début. Même si ça a pris du temps avant, pour moi, ça a pris du temps là, avant qu'il apprenne que je fasse du patinage de vitesse. Quand j'ai décidé de m'inscrire au patinage de vitesse, j'avais vu l'annonce sur un babillard à l'école.
À Sainte-Foy?
À Sainte-Foy. Et je suis rentré chez nous, puis j'avais dit à mon père un samedi soir, je pense qu'il écoutait la soirée du hockey. Alors, il était concentré sur la partie, puis j'avais dit, je me suis inscrit dans un club de patinage de vitesse parce que je faisais aucun sport. Je commençais à jouer au hockey, mais à reculons, ça ne me tentait pas plus, mais mes frères jouaient, fait que j'ai dit, je vais jouer. Et j'ai dit, je vais aller au patinage de vitesse parce que j'aimais patiner. Je lui ai donc dit ça, puis il m'avait même pas regardé, puis il avait dit, moi, ces affaires-là, je crois pas à ça. Puis il faisait allusion, je pense, parce qu'en ce temps-là, les écoles de power skating commençaient. Ah. Puis mon père disait, si tu veux être bon au hockey, il faut toujours au hockey, power skating. En tout cas, okay. C'était un peu la mentalité
flou
qu'il
un
avait.
Peu, là, ouais. Ouais.
Et le lendemain, le patinage de vitesse, c'était de midi à 1h à l'aréna. Et moi, j'avais l'habitude d'aller au patinage libre de 1h à 4h à l'aréna. Je marchais, j'allais à l'aréna de Sainte-Foy. C'était comme, ça me prenait 20-25 minutes de marche. Là. J'avais 11 ans. La seule différence, c'est que j'y allais 1 heure plus tôt. Je faisais du patinage de vitesse, puis je restais au patinage libre. Vers la mi-fin octobre, le voisin, directement à côté, m'a donné, il est venu à l'aréna pour faire affûter les patins de son gars. Et là, il a regardé hein, pendant qu'il affûtait les patins, il regardait, puis il m'a vu. C'est ce qu'a conté à mon père. Hein. Là, il est arrivé retourner chez nous, et puis il a vu mon père, puis il dit « Ton gars, il patine, hein? » Puis mon père, il dit « il aime ça, il va à l'aréna, puis il s'amuse, puis tout. » Il dit « Non, il dit, ils font des courses, puis ils gagnent tout. » Ça fait que mon père n'a rien dit. Mais la semaine suivante, quand je me préparais pour aller, il a dit « Hey, as-tu du patinage de vitesse aujourd'hui? » Puis je dis « Ben oui, tu sais, ça fait un mois, deux mois j'en ai. » Ben il dit « Veux-tu un lift? » Et là, il est venu. Il restait à l'entraînement, puis il a vu que, ouais. Et là, l'entraîneur a vu qu'il y avait quelqu'un d'excité dans les estrades, un nouveau parrain excité.
Et c'est ça le souvenir que j'ai de ton père.
Et là, l'entraîneur est allé le voir, puis il a dit c'est votre fils. Il dit oui. Il dit il y a du potentiel, mais il serait encore meilleur s'il y avait des longues lames. Parce que j'étais encore en patin de hockey dans ce temps-là. Parce que ça commençait, hein.
Ben
tout
oui,
le monde
ben
était
oui.
En patin de hockey ou presque. Là, j'étais rendu un des derniers parce que mon père n'était jamais là. Puis même si l'entraîneur me disait, moi, je n'étais pas allé demander de l'argent à mon père pour acheter des patins. Là, mais c'est comme ça que ça a commencé. Puis à partir de là, mon père est...
Quand il est embarqué...
Ma mère, on en parlait encore la semaine dernière. Ma mère faisait des beignes quand il y avait des événements au club, les fêtes de semaine. Et mon père était justement quelqu'un qui est volubile, qui n'est pas comme moi. Là. Moi, je suis tranquille, je ne dis pas un mot. Là, mais mon père... Il fallait que ça roule, puis il avait fait c'est Bob Chevalier qui était le gérant de l'aréna dans le temps. Et il était allé le voir pour avoir des heures de glace de plus, pour avoir ci, pour avoir le tracteur déblayer l'anneau à l'extérieur. Puis il s'est vraiment impliqué beaucoup. Hein. Ce qui était plaisant, c'est de faire des compétitions à l'extérieur. Ça prend de l'argent. Alors, il faisait le club de Sainte-Foy a fait des levées de fonds. Et puis, on a commencé à avoir beaucoup d'argent, puis à permettre à des patineurs d'aller à l'extérieur. On en a acheté, moi, je me souviens, moi, le championnat provincial, à un moment donné, la Fédération de patinage de vitesse du Québec, ont emprunté le tableau électronique. Maintenant,
Ça fait partie de l'équipement de base ou presque, là?
C'est un détail maintenant, mais dans le temps, c'était important d'avoir un chronométrage électronique et Sainte-Foy en avait un. Alors, Sainte-Foy avait beaucoup d'argent à cause des levées de fonds et ça permettait justement de faire du développement puis d'aller à plusieurs bonnes compétitions.
Fait qu'une bonne pensée pour le voisin qui est passé par la patinoire cette journée-là. Hein? Ça a précipité les choses pareil. Ça serait arrivé d'une façon ou d'une autre. Hein? Mais ta mère aussi était très impliquée. Ta mère est encore en vie. Ton père est décédé en 2003, il y a quand même quelques années déjà.
Oui, ma mère est encore vivante. Puis, oui, elle était très impliquée parce que, elle suivait mon père. Alors, lorsqu'on allait en compétition, c'est sûr que ma mère voulait venir aussi. Elle faisait les lunchs. Hein, et on partait avec quand même à toutes les fins de semaine. À un moment donné, on partait en compétition à Lake Placid, dans l'État de New York, ailleurs, etc. Puis, c'est beaucoup d'heures de route. Alors, pour manger au restaurant toutes les fois. Fait que ma mère faisait les lunchs, c'est important, la glacière, puis les lunchs, puis elle s'assurait là, qu'on manquait de rien. Puis elle adorait les courses. Ma mère parlait pas beaucoup, mais elle adorait de voler.
Tu racontes ça, puis je vois le film. Là, même peut-être qu'on se revoit tous un petit peu dans ce genre d'aventure-là, de partir pour des compétitions, mais toi, quand tu repenses à ces années-là, es-tu nostalgique un peu? C'est des belles années de ta vie, là, clairement. Hein? Même avant les médailles, là, avant les médailles olympiques. Là. Parce qu'on dit « enjoy the ride » souvent, parce que les Olympiades, il y a une espèce de finalité en soi quand t'as atteint ton rêve. Je parlais avec Michael Kingsbury il y a quelques jours, puis je lui demandais « est-ce qu'il va falloir que tu trouves un autre rêve? » Tu vois ce que je veux dire?
Oui, mais nostalgique, oui, un peu. Je regarde les compétitions de courte piste, puis je me souviens très bien, parce que nous, les Québécois, on fait tous du courte piste avant de faire du longue piste à cause des conditions climatiques, puis parce qu'on n'a pas d'anneau. Ça va changer avec l'anneau couvert qui s'en vient à Québec. Mais quand même, c'est pas négatif non plus de faire du courte piste. Mais j'allais voir mon père dans les estrades, puis là, on parlait de stratégie. Il voulait savoir qu'est-ce que je vais faire. En finale du 800 mètres, puis il dit « qu'est-ce que tu vas faire? » Ben, je dis « je vais rester un peu en arrière, puis quand il va rester 4 tours, je pars. » Il était content. Puis c'était drôle parce que il suivait la course. Puis effectivement, c'était ma stratégie pour la course. Des fois, ça marchait, des fois, ça ne marchait pas, c'est sûr. Mais je le tenais au courant de tout. Puis pour moi, c'était le fun. Puis maintenant, c'est nostalgique de penser que oui, dans le temps, mon père était présent, ma mère était présente au plus de compétitions possibles.
Et un sourire.
On faisait des voyages bien intéressants.
Ton visage s'illumine aussitôt que... À toutes les fois qu'on parle de ces moments-là, mais particulièrement justement au moment où on dirait que tu prends un plaisir à y repenser, à voir l'enthousiasme de ton père, parce que veux pas tu lui donnais du gaz pour que lui s'enthousiasme, hein, puis on sent que c'est un souvenir précieux. Hein. Est-ce qu'il était devenu une espèce de coach en quelque sorte?
Il a essayé...
C'était ton psychologue sportif? Non, t'en avais pas dans le temps.
Même pas vraiment à ce point-là, mais c'était vraiment le dévouement là, de chacun, le fait de faire des heures et des heures. Mon père travaillait fort. Mon père avait deux emplois. Et,
qu'est-ce qu'il faisait, donc?
Il travaillait au CN. Et il travaillait quand il était à Québec aussi, parce qu'avec 6 enfants, à un moment donné, au début, la difficulté est arrivée. Et il travaillait à l'auberge de la Colline, sur la Rive-Sud. Mais l'hiver, c'est sûr qu'il essayait de prendre des congés. Puis le vendredi, souvent le vendredi, il fallait partir à midi. Pour si on avait 7-8 heures de route, puis 10 heures de route à faire là, pour les compétitions du samedi. Alors souvent, il conduisait toute la nuit. Malgré la semaine qui avait passé puis le peu de sommeil, puis nous on dormait dans l'auto là, mais on se rendait aux compétitions, puis samedi, dimanche, puis 5h, 6h le dimanche soir on revient, puis c'était beaucoup de puis
je l'ai fait demandant.
Ça
puis tu le fais comme parent
avec
tes enfants?
Je l'ai fait avec mes enfants, on en parlait la semaine dernière avec ma femme, parce que
c'est important pour toi de le refaire.
Oui, parce que pour nous c'est des belles années aussi. C'est nous, la relation qu'on a avec nos enfants, c'est que nos meilleurs moments, c'est les soupers de famille, les voyages qu'on fait ensemble. D'ailleurs, on fait un voyage, on s'est dit il y a 2 ans, on fait un voyage, on invite toute la famille, et on est 10 adultes avec 3 bébés maintenant. On est allé en Grèce, on s'en va au Portugal bientôt, et on invite tout le monde parce que c'est les meilleurs souvenirs. Puis on se dit, ça va être mieux ça que de dire à la fin, quand on va mourir, regarde, vous avez chacun 5 000, 10 000, 15 000 piastres. Et on n'en a pas besoin.
C'est ta vision des choses. Là, tu ne penses pas à les gains d'héritage, mais de vivre, de partager le plus possible.
Oui. Puis c'était la même chose un peu, parce que je regarde les voyages qu'on faisait en famille avec mon père, ma mère, les voyages à Old Orchard, les voyages de camping. toutes sortes de choses qui arrivent dans les voyages qui sont drôles et qui sont pas drôles toujours sur le coup, mais qui sont drôles par après. Puis c'est...
As-tu une anecdote avant la pause? As-tu un souvenir là, quand tu te vois le visage là, quand tu repenses à tout ça? Là, y a-tu une qui se raconte? Sûrement plusieurs.
Voyage de famille, ben, y a toutes sortes de choses des fois qui sont drôles. Voyage de camping quand on revient parce qu'on nous on n'avait pas tant de roulotte. Puis à un moment donné c'était la mode d'aller en camping. Alors on a loué une tente roulotte. Puis quand on est revenu du voyage, ben on a oublié, mon père a oublié de vider la toilette. Alors ça s'est tout déversé dans
le coffre.
Non, dans la tente roulotte.
Ah!
Et là, c'est ma mère, fallait aller la ramener. Alors, c'est ma mère qui était prise là-dessus, là, quand on est arrivé à la maison pour aller la reporter propre. Et ma mère n'a pas aimé ça trop tôt. Ça a été fin, ça a été fini, là, l'occasion de.
Oh,
bon, sinon, c'était à l'hôtel, mais c'est toutes des anecdotes. Quand plus on en compte, plus on s'en souvient.
On s'en rappelle, mais, effectivement. Ouais. Nous sommes en compagnie de Gaétan Boucher. J'espère que vous passez de bons moments avec nous. C'est loin d'être fini. On vous revient dans un petit moment avec notre invité.
Au réseau Cogeco, vous écoutez Mario Langlois Rencontre.
On est en 1984, puis dans les archives que je réécoutais, je prends une entrevue que tu accordais à l'époque à Chantal Joly. Et elle te demande quel genre de musique tu écoutes. Tu dis, moi, j'écoute du rock. Tu dégageais beaucoup de confiance, puis du c'est ainsi, c'est Corbeau. Hein? Ça te rappelle des souvenirs, ça, d'écouter
oui,
ça?
Ah oui?
Pourquoi Corbeau? C'est vrai que ça, c'est une belle. T'entraînais-tu là-dessus?
Oui. Nous, on faisait beaucoup d'entraînement. Étant donné qu'on est dans un sport individuel, il y a beaucoup d'entraînements qui sont faits sur vélo. En patinant, c'est sûr qu'on n'avait pas de musique, qui sont faits solitaires sur vélo. Puis dans ce temps-là, avec les Walkman, les écouteurs, c'était possible.
Tu en revois-tu en 84, là? Tu t'en revois-tu?
Hein? Oui. C'est le genre de musique que j'aimais dans le temps. Ouais. C'est toujours, moi, la musique, je l'aime selon le beat, selon les voix, des fois, dans une chanson. Ça, j'aimais beaucoup cette voix-là. Alors,
Puis en plus, je sais pas si tu l'écoutais celle-là, mais moi, j'adore le rythme de celle-là. Puis en plus, d'un point de vue sportif, je lâche pas. Puis bref, je sais pas si tu te motivais un petit peu avec ça. C'était pas la seule que t'écoutais, mais je voulais partager ce petit souvenir-là. Et plongeons dans les jeux maintenant. Ça arrive quelques jours après, les compétitions commencent. Et t'arrivais là pour gagner, Gaétan, parce qu'évidemment, le monde entier t'avait découvert en 80 Lake Placid, alors que tu livrais une très, très chaude lutte à Eric Heiden, qui a été en 80 là, le gars qui était indélogeable. 84, t'allais là pour gagner, puis t'en venais avec les médailles.
Ouais.
Ça a fonctionné vraiment comme tu voulais?
Ouais. Hein? J'hésite, parce que j'essaie de me souvenir. Mais oui, moi, je voulais avoir... Je savais que je gagnerais le 1000. Ça, dans ma tête, il n'y avait aucune question parce que patinage de vitesse, on peut pas... Quand on gagne des compétitions une semaine puis qu'on gagne par une seconde ou plus, on peut pas, dans une semaine, rattraper cette seconde-là. Là. C'est pas parce que l'autre gars... Alors, à toutes les semaines avant les Jeux, j'avais affronté les Japonais, ceux qui étaient les meilleurs, les Japonais, les Russes, les Américains, les Norvégiens, dans cette distance-là, le 1000, puis je gagnais facilement. Alors, le plus proche, c'était le Russe, Klebnikov, mais c'était presque une seconde d'avance. Et une seconde, c'est beaucoup, parce que avec la vitesse qu'on va, c'est à l'œil, une seconde, on se fait laver. Hein. Nous, le terme, c'est on s'est fait laver quand on perd par une seconde. On dit, ça me fait rire un peu parce que tu dis que j'ai eu une chaude lutte avec Eric Heiden. J'étais une seconde et demie en arrière d'Eric Heiden, j'ai fini deuxième.
Tu veux-tu me dire qu'il t'a lavé?
Il m'a lavé parce que quand je suis sorti du virage à Lake Placid, je l'ai vu, lui qui franchissait pratiquement la ligne d'arrivée, là, j'ai dit, je suis peine trop loin pour finir deuxième cette fois-là parce que ça faisait plusieurs fois que je finissais deuxième au championnat mondial. Puis, il me semble, la distance était moins grande. Mais en tout cas, ça a été la distance pourtant la plus courte. C'était l'écart le plus court que j'ai eu avec lui dans un 1000 mètres important, là, mon championnat
mondial. Il était sur une autre planète, lui?
Une seconde et demie, c'est incroyable. Là.
Mais il était vraiment dominant. Hein? Ça n'a pas été long, lui. C'est 80, il n'a pas continué après.
Parce que avant 80, 77, 78, 79, 80, il a gagné tous les championnats mondiaux. Il a gagné 5 médailles d'or aux Jeux olympiques. Alors, il y avait... plus rien à prouver. Et puis,
c'était à ton tour de laver les autres en 84, en quelque sorte.
Oui, mais c'est ça. Fait que c'était à peine presque une seconde, une seconde point quelques. Alors, c'est un écart qu'on ne peut pas combler, ça. Si je me retrouve une seconde en arrière de quelqu'un une semaine avant, faut vraiment que j'aille une mauvaise course puis que lui ait une excellente course. Alors, le 1000 mètres, j'étais assuré dans ma tête de le gagner. Et pour le gagner, fallait que je sois vraiment en confiance, relax, parce que bon, si on est stressé un peu, parce qu'on est trop nerveux, c'est sûr que là, ça peut jouer. Mais mon gabarit pour juger de ça, c'était le 500 mètres qui avait lieu 4 jours avant. Et 500 mètres, je regrette un peu parce que je ne visais pas de médaille. Je pensais pas gagner l'or aux 500 mètres, mais j'aurais pu parce que l'année d'avant, j'en gagnais beaucoup de 500 mètres. Alors, je me disais, non, c'est le 1000 que je vais gagner, puis le 500, j'espère que ça va bien aller. Mais j'ai fini troisième aux 500 mètres, puis je n'étais pas loin en arrière de la médaille d'or. Alors, mais ça, le 500 m'a permis de vraiment d'aller chercher la confiance qui me manque, qui restait à aller chercher pour le 1000 mètres. En fait, j'avais la confiance, mais juste de me faire relaxer puis dire, j'ai pas de problème, je patine super bien, le 1000 va être facile. L'autre, le 1500 mètres, c'est parce qu'un 1500 mètres, c'est difficile en compétition de faire un 1500 mètres contre les meilleurs tout le temps, parce que 1500 mètres, c'est une distance qui est entre les deux. C'est entre le sprint, puis c'est entre c'est les patineurs de plus longue distance qui vont faire des 1500 mètres. Quand on va à un championnat mondial, sprint, il n'y en a pas de 1500 mètres. Si on va à une compétition, ben souvent, il y a un 5000 mètres la journée d'avant. Championnat mondial toute distance, il y a un 5000 mètres la journée d'avant. Alors, ça affecte un peu, moi, mes performances. Mais je savais que je pouvais bien faire sur 1500 mètres. Puis là, après avoir eu l'or sur 1000, ben j'étais plus dans un état plus relax. Puis j'avais confiance de au moins d'aller chercher de médaille sur 1500 mètres.
Des athlètes nous ont raconté encore tout récemment, revenant de Pyeongchang ou même via le téléphone, là, presque une couple d'heures après leur performance, c'était quoi, comment ils se sentaient quand ils ont gagné leur médaille d'or? Tu sais, c'est l'objectif d'une vie, c'est souvent le rêve. Te souviens-tu du sentiment que tu as éprouvé en gagnant ta première médaille d'or olympique et la deuxième? Mais le sentiment de gagner sur le plateau le plus en vue? Là?
Ben c'est le premier sentiment, c'est vraiment d'avoir persévéré, si on veut, d'avoir travaillé fort, d'avoir cru en moi. Je me félicitais, si on veut, d'avoir continué, parce que en 81, 82, 83, 83, j'ai eu des problèmes parce que j'ai été malade au championnat mondial, puis j'ai eu une fracture de la cheville après. Mais 80, j'étais deuxième, 81, j'étais deuxième, 82, j'étais deuxième. La période où on peut être le meilleur au monde est courte, cette période-là. Alors là, je me disais, en 83, je me disais, est-ce que j'ai passé à côté puis je serai toujours deuxième ou si je suis capable? Puis à un moment donné, moi, je suis un gars qui prend tout en note. Alors tous mes entraînements, toutes mes performances, je les écris. Je les ai encore chez nous, puis ces cahiers-là, puis je vois tout. Alors, à la fin de la saison, j'ai pu faire un compte-rendu puis regarder vraiment. Et puis là, je me suis convaincu que non, la progression était vraiment excellente. Puis c'est parce que j'avais été malade que les résultats n'étaient pas bons. Et là, j'ai dit non, c'est beau, ça va bien aller en 84. Puis, fait que c'est ça. Fait que là, donc, en gagnant, ben c'est finalement de penser à tout ça, penser à le support qu'on a eu avec tout le monde. Mon père qui a vu...
Était-il sur place?
Non, il l'a écouté à la radio. Dans ce temps-là, c'était même pas à télé en direct. Il s'était à la radio en direct le matin, à 5h le matin, ou je sais pas quelle heure, là, parce qu'avec le décalage.
Aïe, aïe.
C'est vraiment surprenant, ouais.
Wow. Enfin,
c'est pas si loin que ça, mais non. J'ai une vidéo chez nous où on le voit, parce qu'une fois que j'ai gagné le 1000, c'est sûr que là, la télévision était chez nous, à Saint-Hubert, puis on voit mes parents, mon frère, ma soeur, qui sont dans la cuisine, puis qui écoutent à la radio, le 1500 mètres, la description du 1500 mètres.
Mais ça a quelque chose de comment dirais-je, quasiment de t'sais, une époque romantique, tu sais, il y en a qui vont dire l'ancien temps, tu sais, c'était pas l'ancien temps, ça fait pas si longtemps que ça, là, mais de le vivre ainsi, hein. Puis ton accueil, ton retour au pays, tu sais, je regarde ça aujourd'hui, nous sommes un pays qui célébrons plus de médailles qu'autrefois, mais tu sais, à l'époque, je me souviens pas combien de médailles d'or le Canada va remporter, tout sport confondu, avant ta médaille d'or. Mais je sais qu'en patinage de vitesse, c'était la première fois, puis ça a été la dernière jusqu'à preuve du contraire. Hein? N'as-tu eu d'autres?
Mais aux Olympiques, on parle aux Olympiques, il y en a eu en 1932, parce que c'était... on courait en départ en groupe. En 1932, les États-Unis ont dit, c'est chez nous, on va courir de notre façon, le départ en groupe, au lieu d'être un contre un. Alors les Européens qui n'avaient jamais couru en groupe ont pratiquement pas gagné de médaille. C'est Canada et États-Unis qui avaient tout gagné. Alors, si on fait exception de ces jeux-là, en patinage de vitesse, il y a Cathy Priestner qui avait eu une médaille en 1976, mais c'est à peu près tout. Au Canada, on n'en avait pas de médaille, non.
Wow, hein? Et quand tu repenses à ça, tu as une explication? Comment ça fait qu'on n'a pas gagné de médaille depuis? Chez les hommes, en patinage de vitesse, longue piste?
Québécois, c'est vrai, on n'en a pas.
Des Québécois. Canadiens, il y en a eu quand même, c'est vrai.
Mais non, l'explication, non, parce qu'on a de très bons patineurs. On a de bons entraîneurs.
On a eu l'anneau de glace Gaétan Boucher. D'ailleurs, dernier tour de piste sur l'anneau de glace Gaétan Boucher récemment. Et c'est quelqu'un que tu as connu, dans ta vie, M. Gagné, Maurice Gagné. Maurice, un monsieur qui est âgé de maintenant, là, dans
80 quelques, je pense.
Ouais, qui a effectué le dernier tour de piste. Ouais. C'est symbolique. C'est quelqu'un que tu as connu, qui t'a entraîné, en quelque sorte.
Ben, c'est lui qui était l'entraîneur à Sainte-Foy lorsque j'ai joint le club. Alors, Maurice avait été vraiment mon premier entraîneur. Et puis, j'ai appris beaucoup, beaucoup de Maurice. Parce que il y avait de bonnes méthodes d'entraînement. C'était pas celui qui peut-être qui expliquait le mieux, mais Maurice, il faisait une chose. Il disait, regarde, patine en l'air de moi, puis fais comme moi. Alors, copie ce que je fais, puis bon, OK, quand on le voit, oui, puis ensuite, on peut en discuter. Puis, à un moment donné, on a commencé à travailler avec des caméras vidéo. Alors, c'était pas fréquent dans ce temps-là, puis c'était nouveau, des gros appareils qu'il fallait transporter, de grosses caméras, puis bon, etc. Et Sainte-Foy avait acheté une caméra comme ça, et puis on a commencé à regarder, à l'analyser techniquement. Et moi, je suis un gars visuel, alors une fois que je le vois, je peux corriger des petites affaires. Ah. Fait que ça allait aider beaucoup.
Tu parles du fait que toute la famille écoutait ça à la radio, là, la retransmission de tes compétitions, de tes performances à Sarajevo. Mais moi, je me rappelle encore, puis je revisionnais ça là, ces derniers jours, les images de ton accueil. Ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que tu sais, nos athlètes reviennent en groupe maintenant. On a vu au Centre Bell cette semaine, on en a applaudi plusieurs en même temps. Mais toi, quand tu reviens, t'es le seul athlète qu'on a vraiment à célébrer. Là. Tu reviens avec deux médailles d'or au cou, puis une médaille de bronze. Écoute, c'était le retour de l'enfant prodigue. Là. C'était quelque chose. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as ouvert les portes de l'aéroport?
C'est incroyable. En fait, on le savait avant d'arriver à l'aéroport, parce que après les Jeux de Sarajevo, je suis allé aux championnats mondiaux. Et ensuite, je suis allé en Allemagne voir Karine. Et là, avec Karine, on est parti, puis on a fait Munich-Amsterdam. Et à Amsterdam, il y a une équipe de Radio-Canada qui nous attendait. Alors, à l'aéroport, Pierre Dufault de Radio-Canada dans le temps. Alors, on nous attendait à l'aéroport avec la caméra et on a été bumpé, si on veut, en classe affaires, ou première classe. Et là, ben, il y a eu une entrevue dans l'avion. Alors, là, il nous disait, ah, tu vas voir, et on atterrissait à Mirabel. Dans le temps, et à Mirabel, il y avait du monde, conférence de presse. Pierre Lacroix, qui est devenu mon agent, était là, président de la fédération, des pancartes. Il y avait énormément de monde. Il y avait des agents de sécurité qui m'étaient attitrés. Ça, c'était vraiment quelque chose que Pierre avait organisé, mais qui était inoubliable. Et puis,
Mes parents étaient
à l'aéroport. Toute la famille était à l'aéroport. Puis ensuite, on a eu un transport de Mirabel à l'aéroport de Saint-Hubert en hélicoptère. Hélicoptère de l'armée, et puis de Saint-Hubert, de l'aéroport jusqu'à la maison chez nous, qui était peut-être 3-4 kilomètres, il y avait une parade. Alors, il y avait du monde partout dans la rue. Alors, il y avait des autos, limousines. Il y avait des limousines qui s'en allaient, puis ça roulait tranquillement, puis le monde était dans
un
la
cortège,
rue. Puis le monde me saluait dans la rue. Puis, on est arrivé chez nous, il y avait du monde devant la maison, puis il fallait. Mon frère, lui, qui arrivait avec une autre auto, qui est débarqué, il a fallu qu'il monte son permis de conduire pour rentrer chez nous. Il y avait de la sécurité pour. C'était fou. C'était vraiment quelque chose de bien, bien spécial.
Pour quelqu'un qui était pas si à l'aise que ça avec l'aspect public qui, là, tout à coup, cognait à ta porte, là, parce que là, quand tu deviens un héros national, là, tout le monde en veut un morceau. Est-ce que c'était bouleversant? Est-ce que c'était... C'est quoi que tu avais visualisé qui était quand même agréable, plaisant?
Ben, j'avais pas vraiment visualisé rien de particulier. Pierre Lacroix m'avait dit, hey, tu vas voir, c'est gros, là, prépare-toi, c'est gros. Pierre, tendance à en mettre beaucoup. Mais non, c'était beaucoup. J'avais pas d'idée de ce que ça pouvait être. Et ensuite, j'avais une limousine qui était. En fait, on avait deux limousines stationnées devant chez nous, à la maison chez nous, parce que là, c'était la tournée des radios. Bon, on va-tu mettre la mise au jeu au Nordique ou au Canadien en premier? Ça a été une grosse chicane. Est-ce qu'on va à CJMS ou à CKC en premier? Les deux postes de radio. Faire une entrevue à un ou à l'autre en premier? Puis là, ben, fallait aller à l'hôtel de ville, fallait aller voir le premier ministre, fait que là, il y avait une limousine. Puis j'avais demandé à Pierre, pourquoi deux? Ben, il dit, si t'es en route pour Ottawa, puis qu'il y a une limousine qui brise, l'autre, elle te ramasse, puis elle dit, tu seras jamais en retard. Pierre Lacroix qui avait tout organisé ça. C'est vraiment.
Au corps de tour.
Les hôtels, j'ai dit à Pierre, j'ai pas de complet, moi.
T'as
pas
d'amis?
Paquet d'activités. je m'occupe de ça. Sa femme est allée à magasiner, elle dit, il mesure tant, tata, etc. Alors, c'est incroyable, là, tout ce que. Pendant, et ça a duré à peu près 2 mois, là, vraiment, avant que ça s'estompe un petit peu, parce qu'il fallait que je m'entraîne. Moi, j'ai dit, Pierre, il faut que je m'entraîne. Alors, on annulait des événements à un moment donné. Je disais, je peux pas, j'ai pas le temps, je continue à patiner, il faut que je m'entraîne.
Mais inauguration d'une école. Je ne sais pas si ça s'est fait dans ces 2 mois-là ou avant. Le centre sportif Gaétan Boucher, j'étais là encore en fin de semaine passée avec l'équipe de ma fille. Tu l'as eu, ce tenant-là, avant les médailles de 84. Fait qu'il y a, eux autres, ils ont été en avant de la, tu parlais de la parade, eux autres, ils ont été en avant de la parade de Saint-Hubert, ta ville d'adoption, en quelque sorte, là.
Ouais, eux autres, on est arrivé à Saint-Hubert en 81, je pense. Et puis, la ville de Saint-Hubert allait construire un centre sportif. Et ils m'ont approché, on disait, qu'on pourrait donner ton nom à un centre sportif et à cause de ma médaille d'argent en 1980. Alors, c'est sûr que oui, j'avais accepté. Et puis, le projet a parti avant de gagner à Sarajevo. Alors, quand j'ai gagné, c'est sûr que là, ça a eu un impact un peu plus gros.
Chevalier de l'Ordre du Québec, officier de l'Ordre du Canada. Tu as eu le trophée Lou Marsh, athlète de l'année au Canada. J'en oublie peut-être. Quel est l'honneur le plus grandiose ou qui t'a touché le plus parmi tous ceux que tu as reçus, Gaétan?
C'est difficile.
C'est peut-être pas un honneur officiel, tu sais, des fois, je sais pas.
Ouais, il y en a un que je suis très fier, c'est le prix Oscar Mathisson, qui est le patineur de l'année au monde, au niveau international.
En 84.
Je dis ça parce que...
C'était ton sport.
C'était mon sport. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les athlètes qui étaient là avant moi, ceux qui compétitionnaient contre moi, puis... Je crois toujours qu'il y avait des bons athlètes et c'était pas facile. On a plusieurs courses. J'ai gagné au 1000 mètres, mais il y en a qui ont gagné au 5000, au 10 000, au 500 mètres. Alors, il fallait être bon vraiment globalement. Et puis, vu que c'est mon sport, ben, c'est comme si là, à ce moment-là, ben, je sors un petit peu de...
Une espèce de consécration,
ouais,
là. Hein?
Ouais. Ça, c'est un des gros honneurs, ouais.
On parlait d'Eric Heiden. T'étais dû pour le revoir dans les derniers mois ou dans la dernière année. Je pense que tu l'as revu 2 fois dans la dernière année. Hein? Deux fois par hasard ou une fois par hasard?
Deux fois par hasard, une fois à Québec, donc au Grand Prix cycliste de Québec, où on va à tous les ans, c'est immanquable, ma femme et moi. C'est notre sortie, bien, bien le fun à Québec. On adore la ville de Québec, d'ailleurs. Et après la course, dans un restaurant, Eric Heiden est arrivé parce que lui est le médecin, était le médecin en chef de l'équipe BMC. Et il est allé au même restaurant par hasard. Alors, on s'est vu, puis... On se voyait de temps en temps quand on avait les jeux, mais ça faisait quand même 2 jeux, je pense que je le voyais pas. Et puis, il est venu souper avec nous. Nous, on avait fini de souper, mais il est venu s'asseoir avec nous. Il a commandé son souper, puis il a jasé avec moi, ma femme, puis les autres gars qui étaient là. Puis c'était bien, bien le fun de le rencontrer là. Puis la dernière fois, c'est il y a 2 semaines à Amsterdam. Parce que au championnat mondiaux de patinage de vitesse qui avait lieu là, l'organisation avait invité les anciens champions. Et lui, il a gagné 3 fois ce championnat-là. Alors, il était invité. Je ne savais pas qu'il serait là. Moi, je suis allé comme VIP, mais lui était là vraiment comme gagnant. Et puis, c'était bien le fun de le revoir.
Gaétan, quand tu as pris ta retraite, tu as eu un regret. Tu m'en avais déjà parlé dans le temps, mais après coup, toi, à un moment donné, après 88, Calgary... T'as décidé d'arrêter ça là, peut-être sur la vague de déception du fait que t'avais peut-être pas eu les performances que tu souhaitais, malgré un bon résultat, une 5e place, je pense, au 1500 mètres ou au 1000 mètres?
Au 1000 mètres.
T'as tout arrêté là, mais t'as dit par la suite, j'aurais aimé ça continuer en courte piste, hein?
Oui.
L'as-tu regretté bien longtemps ou t'es passé à d'autres choses à un moment donné?
Je l'ai regretté. C'est un regret sans... C'est pas un gros regret, mais disons que c'est à refaire, c'est ce que je ferais. Je retournerai en courte piste parce que j'ai gagné le championnat mondial de courte piste en 1977 et en 1980. Le championnat mondial est devenu officiel en 81, mais j'étais quand même un des meilleurs au monde, aller jusqu'à 1983 en courte piste. J'étais deuxième en 81, deuxième en 82. En 83, j'ai eu ma fracture de la cheville, donc j'ai pas participé au championnat mondial de courte piste. Mais dans ce temps-là, on pouvait faire les deux dans la même saison. Ce qui est à peu près impossible maintenant. Il y en a qui le font encore, dépendamment. Là. Il y a une néerlandaise qui le fait. Mais c'est très difficile. Mais j'aimais le courte-piste beaucoup. Et si y avoir pensé comme il faut, c'est ce que j'aurais aimé faire après. Ouais.
Si je te demandais, on est tout près de la fin de l'entretien, Gaétan, c'est pas une question facile à répondre tant que ça, surtout quand on a eu une vie assez bien remplie, mais je te demandais, peux-tu identifier, toi, puis ça peut être sportif ou non sportif, mais le plus beau moment de ta vie?
Plus beau moment de ma vie. Il y en a plusieurs.
Toi qui arrives à 60 ans, là, ouais. Ça se bouscule. Il faudrait peut-être faire un top 3, un top 5, un top 10.
Ouais,
mais
c'est sûr que mon mariage en Allemagne, c'était exceptionnel. En fait, je vais délaisser la compétition là, parce que mes médailles olympiques, c'est quelque chose de différent. Les trois mariages que j'ai vécu, celui avec ma femme, celui avec mes deux fils, mon fils qui s'est marié en Allemagne, c'était incroyable comme mariage. Puis mon autre fils s'est marié en Italie. Celui qui est à Amsterdam présentement, puis encore là, on a des souvenirs, parce que c'est toute la famille, puis c'est vraiment quelque chose d'incroyable d'avoir vécu ça, puis on en parle encore, on regarde les photos, on en parle, comment c'était plaisant, puis on raconte les anecdotes. Fait que c'est, si je parle de trois moments, là, c'est beaucoup plus. Mais il y en a tellement d'autres.
Ça se bouscule, hein?
Ah, ouais.
Ouais. L'affaire la plus cool que tu as vécue parce que tu as gagné des médailles d'or olympiques, est-ce qu'il y en a des trucs spéciaux que tu as pu vivre à cause de ça?
Moi, je suis maniaque de BMW. Une des choses qui à cause de mes médailles, c'est que en l'automne 87, je me suis dit, moi, là, je vais aller voir les dealers d'auto parce qu'on était à Calgary. Puis j'ai dit, je vais leur demander s'ils veulent me passer une auto. Puis je me suis fait une liste, puis le premier, j'ai dit, ça va être BMW, je vais aller voir BMW, je vais voir le Mercedes, je vais aller voir bon, ceux qu'il y a à Calgary, il n'y avait pas tant que ça. Je suis allé voir le premier que je suis allé voir à Calgary, j'ai expliqué, j'ai dit, je ne me souviens plus de son nom, mais j'ai dit, écoutez, monsieur, c'est le directeur, c'est le président, en fait, du dealer, du concessionnaire, et j'ai expliqué, j'ai dit, j'aimerais ça me passer une auto, puis je vais faire un petit peu de promotion pour vous. Il dit, OK. Alors, pardon. Alors, il a dit oui tout de suite. Il m'a passé une auto et puis j'ai eu une auto à ma disposition à partir d'octobre jusqu'à la fin février. Puis j'ai changé d'auto à un moment donné parce que j'ai participé à un rallye.
Il t'a reconnu, il savait Gaétan Boucher, ouais. Parce que dans 87, mais ça me fait réaliser une chose.
Monsieur Harvey en plus, oui.
C'est que, mettons, si tu avais vécu ce que tu as vécu à l'époque d'aujourd'hui, tu aurais eu une voiture probablement bien avant 1987, ce qui est presque 8 ans après ta première médaille olympique. Donc, c'est avant l'ère des commandites. Avais-tu, toi, Gaétan, nutritionniste, bon, t'as eu un agent par la suite, mais psychologue sportif, toutes les ressources qui sont près des athlètes aujourd'hui? Là?
Non. Psychologue sportif, on a eu une conférence à un moment donné lors d'un camp d'entraînement l'été. Toute l'équipe canadienne, les gars et les filles, là, on avait deux équipes, mais les deux, on était les deux ensemble. Une conférence d'un psychologue sportif. Et ensuite, on nous a demandé, les entraîneurs nous ont demandé si on voulait faire affaire avec un psychologue sportif pour nous aider à notre préparation. Puis nous, les gars là, du côté masculin, on a tous dit non. Je ne pensais pas qu'on avait vraiment besoin de ça. Peut-être que ça peut, oui, ça aurait pu aider certaines personnes. Moi, j'ai réussi à gagner. Alors, mais il y a toujours quelque chose qui est utile là-dedans, mais on ne pensait pas qu'on en avait besoin. On n'avait pas de nutritionniste, on n'avait pas de médecin, on avait un physiothérapeute. On avait un entraîneur. C'était vraiment des petites équipes dans le temps.
Une petite bière par jour.
Une petite bière par jour. des fois deux.
Des fois deux.
On mangeait des frites à un moment donné. On a coupé, l'entraîneur a fait couper les frites à la pension où on restait parce qu'il dit non, c'est assez, vous mangez trop de frites, alors.
Je gardais le punch pour la fin, Gaétan Boucher, qui est notre invité, c'est que je pourrais faire une manchette peut-être qui pourrait induire un peu les gens en erreur, mais tu vas nous expliquer ça. Tiens, la manchette est la suivante. Gaétan Boucher effectue un retour sur patin. Parce que tu m'as confié dans un entretien téléphonique que, premièrement, ça fait un bout de temps que t'as pas patiné, surtout avec les longues lames. Et là, ben, t'attends la construction du nouvel anneau de glace, qui est embouché, le nouvel anneau couvert qui va être pris en 2020. Puis, t'as des projets par rapport à ça? Raconte.
Ouais, ben, ça s'est fait vite. Benoît Lamarche, qui est un de mes bons amis, qui a travaillé sur le projet de l'anneau de glace, a mentionné ça la semaine dernière, lors du championnat mondial de courte piste. Puis, il m'a juste fait penser, il dit, hey, il va falloir que tu patines. Et puis, je dis, ah, ben c'est pas fou, oui, puis j'ai pas de patin, mais j'ai l'intention. Donc, c'est loin encore, on a 2 ans environ, mais il faudrait que je puisse patiner avec des longues lames. Et puis ensuite, mais J'ai dit, moi, je me dis, si c'est possible dans ce temps-là, mais j'irai peut-être 2 jours à Québec par semaine. Une journée, coucher, alors 2-3 entraînements, puis recommencer à patiner régulièrement. Parce que le patinage de vitesse, il faut le faire régulièrement. Mais oui, j'aimerais ça. À l'intérieur, où on a pu faire... À se battre contre le froid puis le vent, j'aimerais beaucoup, beaucoup ça, parce que ça me manque un peu. Ça fait depuis 1998, je pense, que j'ai pas mis de longue lame.
Wow!
Ça fait 20 ans, oui.
Même pas Maurice Richard?
Non. En fait, j'ai plus de patins longue lame. J'ai des claps que la compagnie m'a donné, mais je rentre pas dedans. Les pieds changent, hein, la morphologie des pieds change quand on les utilise pas dans ce but-là. Les patins sont habituellement très serrés. J'ai pas de patins courte-piste, j'ai pas de patins longue-piste, j'ai plus de patins de hockey non plus. J'ai travaillé chez Bauer pendant 15 ans, mais j'ai plus de patins de hockey parce que mes gars, ils sont partis avec.
Alors, Gaétan, il est temps que tu ailles magasiner, comme tu as fait avec ta BMW à Calgary.
Ouais.
Ah, que ça passe vite. Gaétan, je te remercie beaucoup. Merci beaucoup pour cet entretien. Tu as l'air en pleine forme. Je te souhaite un petit peu en avance un joyeux 60e anniversaire. Vas-tu célébrer ça? Là?
Je vais le célébrer en vélo en Italie. Alors, ouais.
Une belle façon de souligner ça.
On fait un voyage de vélo avec mes chums, puis on va fêter ça là, ouais.
Gaétan, un gros merci. Ça fut bien apprécié.
Merci.
Voilà, Gaétan Bouchette est notre invité. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis merci d'avoir été là. Je vous retrouve aux amateurs de sport du lundi au vendredi dès 18h30. Sinon, en grande entrevue, la semaine prochaine.